Madame, Monsieur, bonjour. Madame Mabillon-Bonfils et Monsieur Laurent Saadoun, vous êtes enseignant et surtout politologue. Nous vous écoutons immédiatement.
Bonjour, effectivement, Laurent Saadoun et moi-même sommes politologues et c'est donc de ce lieu que nous allons parler. Pourtant, il nous semble que la psychanalyse, en introduisant le point de vue de l'inconscient au cœur des phénomènes humains, a modifié radicalement le savoir sur l'homme. Bachelard nous a appris que le savoir se construit contre les autres et contre soi-même. Il semble aussi que le savoir se construise avec les autres, avec soi-même et avec l'autre qui parle par sa bouche. Les sciences sociales, vous le savez peut-être, se construisent encore aujourd'hui par l'hyperspécialisation disciplinaire et par la division des tâches. Nous travaillons, nous militons et nous travaillons pour un regard pluridisciplinaire sur les objets des sciences sociales. Cette pluralité foisonnante de regards, nous allons essayer de la construire aujourd'hui pour proposer une approche un peu différente du social. Il ne s'agit certes pas d'appliquer la psychanalyse fondamentalement singulière au plan socioculturel, mais bien saisir comment la psychanalyse, en prenant en considération la dimension des processus inconscients en tant qu'ils œuvrent dans le lien social, rencontre la question du lien social. C'est alors cette prise en compte de l'envers du social, sans lequel le réel ne pourrait être construit, que nous voulons aujourd'hui essayer d'aborder avec vous. La question de l'école en tant que lieu de socialisation, mais aussi en tant que lieu d'institution du social, voire en tant qu'appareil idéologique de l'État, puisque l'État joue sa pérennité dans la constitution du social, est au cœur du lien social. Vous savez peut-être que pour Freud, il y a trois professions impossibles: psychanalyser, gouverner ou éduquer les hommes. Car, dit-il, on peut être sûr d'avance, pardon, de ne pas produire l'effet attendu. Quelles sont alors ces empreintes indélébiles que nous lègue l'école et qui ne seront pas sans effet sur la construction de la citoyenneté? Quel espace de pouvoir met l'école en jeu? En d'autres termes, comment désir de pouvoir et pouvoir du désir s'articulent pour construire une clé de lecture de l'institution scolaire? Voilà à quoi nous allons nous attacher. Et c'est Laurent Saadoun qui va commencer la première partie de cet exposé.
Il s'agit donc d'envisager l'école comme espace symbolique de pouvoir, c'est-à-dire que l'école est, dès son origine, une institution sociale qui travaille à la fois le corps et l'esprit. Il s'agit précisément de mettre en ordre les corps et les esprits, articulant jeu du pouvoir et jeu du désir. L'école est en effet, en tant qu'institution du pouvoir, le lieu de la régulation des conduites et de la normalisation des pratiques. Le travail qui a été fait il y a une trentaine d'années par le philosophe Michel Foucault le démontre amplement. C'est une institution qui fixe un certain type de relation au savoir et donc aussi au pouvoir, qui met en œuvre le rapport savoir-pouvoir, qui l'institue au travers d'un certain nombre de règles disciplinaires qui s'appliquent donc autant à l'examen des corps qui lui sont soumis qu'aux esprits en formation. Foucault considère que le pouvoir est nulle part parce qu'il est partout. C'est-à-dire que le pouvoir traverse les corps, il n'est pas considéré comme étant une propriété. Il est essentiellement relationnel et stratégique. Et c'est à l'examen des formes de maillage du pouvoir que nous avons tenté de saisir l'école comme lieu de pouvoir, comme lieu de désir aussi, ou de non-désir, dans notre ouvrage Sociologie politique de l'école. Le pouvoir passe, traverse les sujets. Il fait aussi circuler les individus, les uns par rapport aux autres. Il fonctionne en chaîne. il instaure des relations asymétriques, mobiles, au travers des technologies propres au temps de l'école et à l'espace de l'école, c'est-à-dire au lieu de l'éducation. La règle, une des règles qui fonctionne autant sur le corps que sur l'esprit en termes de relations de pouvoir, c'est celle qui consiste à tenter de connaître toujours plus précisément les individus qui sont soumis à l'école, c'est-à-dire autant les élèves que les enseignants. Il faut classer, il faut trier. Les individus sont des objets à connaître. Et d'ailleurs, le système de la notation, qui renvoie à une forme particulière de mise en discipline du savoir, est le fond commun de l'école, puisque la note concerne autant l'élève que l'enseignant. Il s'agit aussi, dans l'espace scolaire, de construire une discipline de vie, un rapport particulier au temps, et il s'agit de canaliser les énergies utiles. Le travail analytique de Foucault consiste justement à décrypter les stratégies de pouvoir des acteurs, mais aussi les formes prises par l'organisation des contrôles en termes de surveillance et bien sûr aussi en termes de punition, surveillance et punition étant des formes de régulation à la fois positives et négatives. Et dans notre ouvrage, nous avons notamment traité d'un point de vue à la fois théorique et empirique la question du conseil de classe où se joue au sein même de l'institution la permanence d'un certain regard que l'institution porte sur elle-même, alors même que l'école est en crise, que les valeurs de l'école sont contredites souvent par l'économie marchande et sont confrontées à des demandes multiples, eh bien, le conseil de classe fonctionne comme un lieu de permanence, permanence relationnelle, où s'inscrivent ces rapports de pouvoir, notamment au travers des jeux de regard, des positions statutaires des uns et des autres. Béatrice va en résumer les principaux aspects.
Juste en quelques mots pour illustrer ce cas du conseil de classe. Effectivement, dans un conseil de classe présenté parfois comme une parodie de démocratie ou au moins un tribunal de sanction des résultats, se joue aussi autre chose, c'est-à-dire à la fois des rapports de pouvoir, de hiérarchie, de position de matière, de hiérarchie entre l'administration et les élèves, les représentants de parents, les acteurs du système scolaire, donc position hiérarchique, rôle, faisceau des attentes, gestion des flux d'élèves, investissent autant le conseil de classe que les résultats même des élèves. À savoir que dans cette école que Laurent précisait en crise, en tout cas en malaise, moi je préfère dire malaise de l'institution scolaire face à l'hétérogénéité croissante de ses publics et sa difficulté à gérer cette hétérogénéité croissante des publics, le conseil de classe peut aussi être considéré, et c'est ce qu'il abordait, comme un rituel de maintenance d'une réalité sociale. Ce fonctionnement rituel, ce que je voulais appeler parodie de démocratie, est une des instances maîtres de notre système scolaire qui influe singulièrement sur les destins individuels et sur les trajectoires scolaires. Donc, simple illustration, que le pouvoir est nulle part et partout à la fois, parce qu'il n'est pas simplement aux mains d'un proviseur, par exemple, ou aux mains d'un professeur principal, mais il est dans cette gestion difficile et dans cette présentation de soi que l'on est capable ou pas de mettre en œuvre lors d'un conseil de classe, dans cette prise de la parole, dans cette gestion des temps de parole, dans ces relations de connivence, dans cette articulation entre conflit, négociation partielle, entre présentation de soi qui se joue lors d'un conseil de classe.
Il s'agit donc d'analyser l'école comme un lieu où le pouvoir est territorialisé et la gestion de ces territoires en concurrence, Foucault toujours les a saisis au moyen du panoptique, le panoptisme, c'est-à-dire au moyen de l'observation, de l'organisation, de la manière dont les individus circulent, de la manière aussi dont ces circulations sont surveillées. Et l'école est donc bien peut-être ce lieu clos et disciplinaire comme le sont aussi l'atelier, la prison et au sommet de la pyramide, l'hôpital psychiatrique, lieu clos et disciplinaire, avec notamment en son centre un espace vide, mais pas vide de sens, puisqu'il construit des interactions utiles à l'école, celui de la cour de récréation, qui est organisée architecturalement pour soumettre notamment les élèves au regard institutionnel et à la surveillance. Ces circulations utiles, ces territoires à constituer, sont aussi ceux que l'école distribue dans sa capacité à construire un temps scolaire qui est aussi un temps social, mais qui n'est pas le temps social de l'extérieur de l'école, même s'il familiarise aussi avec le temps extérieur à l'école, notamment le temps qui va consister à entrer dans la vie professionnelle. Je pense notamment au planning, tous les systèmes de contrôle des présences qui forment l'appareil technologique de la régulation scolaire des flux et aussi de la présence des corps dans le lieu. Et je vous citerai simplement, là encore Foucault, mais dans le texte, un petit extrait de Surveiller et punir. Il explique « Il s'agit d'établir les présences et les absences, de savoir où et comment retrouver les individus, d'instaurer les communications utiles, d'interrompre les autres, de pouvoir à chaque instant surveiller la conduite de chacun, l'apprécier, la sanctionner, mesurer les qualités ou les mérites. Procédure donc pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser. » Parmi les stratégies de mise en discipline, il y a évidemment la logique de la mise en rang. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les notes, sur les systèmes de classement, mais ça renvoie aussi à la distribution dans l'espace, notamment de la classe, des élèves qui sont là encore soumis au regard panoptique. Et d'une certaine manière, même si de ce côté-là, il y a autre chose, une autre vie, et nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais enfin, il y a quand même un peu la reproduction. Vous voyez que nous sommes d'un côté, de l'autre, il y a le public. Vous avez certes une relative mobilité, mais enfin, si c'était un cours, elle serait probablement plus réduite. Et puis, votre position ici est forcément face au regard de ceux qui parlent ou de celui qui parle. Vous êtes donc déjà sous la surveillance du regard de celui qui parle et sous la surveillance de la parole de celui qui s'exprime. Mais en outre, la mise en scène de la relation de pouvoir est telle architecturalement que vous êtes aussi étiqueté, aussi regardé, potentiellement surveillé par l'endroit que vous ne pouvez pas voir et qui vous rend beaucoup plus fragile de ce point de vue-là, c'est-à-dire par vos dos. Il y a donc un double circuit qui est établi. Il y a le circuit d'ici à là-bas, et puis il y a aussi tout le regard qu'on peut aussi qualifier en sociologie de contrôle social qui s'applique à une partie de votre corps que, de fait, vous avez beaucoup de mal à saisir, mais qui, puisqu'il est soumis au regard, vous saisit pour une part dans la relation. Alors cette mise en rang, évidemment, elle passe par la discipline, elle passe par les systèmes de classement, elle passe, je l'ai dit, par l'emploi du temps, et elle passe spécialement dans l'école par ce découpage du savoir scandé d'obligation, découpage du savoir en discipline scolaire, souvent d'ailleurs très arbitraire. Nous avons travaillé sur notre ouvrage sur le rapport entre savoir savant et savoir enseigné, dans un ouvrage de didactique. Et c'est vrai qu'il y a une partie d'arbitraire dans la sélection des contenus qui tient là aussi de la nécessité de construire une relation à la fois apaisée, si c'est possible, et en tout cas un territoire acceptable géré par l'école et par l'institution, le territoire du savoir acceptable et légitime dans l'école. Dans cette position du corps, il faut aussi constater que dans l'espace de la classe, il y a en fait plusieurs croisements, plusieurs distributions de positions qui sont elles aussi illustratives des rapports de pouvoir, mais aussi illustratives de cette difficulté, de cette négation de la capacité à être dans le désir, c'est-à-dire peut-être à être dans l'intime. Nous sommes dans un espace collectif qui a pour mission de socialiser. Et alors, il faut aussi considérer à présent un peu moins, puisque je suis attaché à ma chaise devant ce micro, mais il faut considérer que ce qui distingue l'enseignant de l'élève, corporellement, physiquement, c'est que, a priori, l'enseignant peut-être le plus souvent dans la position verticale et qu'il est mobile, alors même que l'élève est plutôt dans une position horizontale et maintenu immobile, ce qui suggère pour l'élève la soumission et pour l'enseignant probablement la référence au phallus et donc à la loi. Position du corps aussi qui passe par l'exercice, par les exercices et notamment les exercices du corps. Nous avons, dans notre ouvrage, interrogé la place du sport dans la socialisation du corps et des esprits, reprenant en partie le travail qui a été fait par un sociologue du sport et aussi du corps, Vigarello, dans son ouvrage Le corps redressé. Alors, corps redressé parce que l'école est un espace de dressage des corps et des esprits, de refoulement aussi, nous allons y venir, de non-désir, et de mise à distance des corps. Les corps sont présents, mais en même temps qu'ils sont présents, ils sont aussi absents, puisque notamment ils sont, quand un élève se lève ou chahute, c'est justement la manifestation du corps qui ne confirme pas la règle du lieu et du moment. Il s'agit bien d'oublier les corps pour mieux pouvoir les travailler d'une manière régulière. Il s'agit donc pour nous dans ce travail de questionner le comment du pouvoir de l'école, reprenant la fameuse question de Foucault du comment ça marche le pouvoir. Et évidemment, nous avons été amenés à interroger doublement l'école du point de vue de la violence, c'est-à-dire l'école comme espace violentogène, à savoir l'école de la violence, l'école violente, mais aussi concevoir que les violences à l'école, notamment des élèves face à l'institution, face aux enseignants, etc., correspondent à la réponse que les acteurs font face à cette violence instituée.
Juste un mot sur la violence, c'est l'idée que je reprendrai un peu plus tard, mais que la violence est au cœur même de l'institution scolaire. Quand l'actualité, les médias nous présentent régulièrement des cas de violence à l'école, qui sont effectivement parfois existantes, des raquettes aux injures, etc., il faut penser que l'institution scolaire elle-même est violentogène, ne serait-ce que parce qu'elle impose parce qu'elle impose une véritable inégalité. Il y a des inégalités sociales, culturelles, économiques et sexuelles à l'école que l'école en tant qu'institution nie d'une part, et d'autre part parce que la relation pédagogique elle-même est une relation forcément violente. Et sur ce point, j'y reviendrai dans la deuxième partie.
Alors, j'aborde un autre point dans cette démarrage d'une réflexion sur l'école comme lieu de pouvoir et comme lieu de désir ou de non-désir. Il faut aussi remarquer que l'école est aussi le lieu de la souffrance. Évidemment, de la souffrance des élèves, mais j'y viendrai un peu plus tard, de la souffrance aussi des enseignants. Souffrance psychique, psychologique, qui, en tant que telle, accompagne probablement tout processus de socialisation. Parce que le fait même d'éduquer une jeune génération, dans l'esprit par exemple de Durkheim, c'est forcément mettre à distance les pulsions comme relevant des frontières de l'intime et des histoires singulières. C'est-à-dire que les pulsions ne sont pas collectivisables et donc, a priori, elles n'ont pas lieu d'être dans l'espace de la classe et dans l'interaction habituelle de l'espace scolaire. Parce que le corps est socialisé, il est, vous l'avez peut-être entendu dans ce que je disais précédemment, parce que le corps est socialisé, il est donc capturé par la règle, l'émotion est généralement évacuée de ce lieu comme corps étranger à la relation et à l'institution du pouvoir. À cette violence qui, une caractéristique mineure des formes prises par la violence de l'école, y compris dans son histoire, à cette violence de l'école répond celle des enseignés. Les déviances scolaires, les chahuts, sont évidemment du ressort des réponses des acteurs à une institution de fait pathogène, parce que institution du pouvoir. Et je vais rapidement aborder la question de la souffrance des enseignants dans leur activité au quotidien. D'abord, remarquons que la souffrance des enseignants est jugée par eux-mêmes et par leurs pairs très souvent comme étant le résultat d'une incompétence. Pourtant, elle est un marqueur important de l'identité professionnelle des enseignants qui sont de fait placés toujours en situation de risque parce que en situation de parole. Risque notamment dans leur capacité ou pas à gérer le rapport au savoir, et risque aussi qui peuvent être interprétés de deux manières, comme étant une sorte peut-être d'origine de la constitution des groupes, une origine archaïque de la constitution des groupes. Je renverrai à René Girard, la violence et le sacré, c'est-à-dire l'image du bouc émissaire d'un côté, et de l'autre, le fait que les fantasmes soient aussi organisateurs des groupes, et parmi les fantasmes, il y a peut-être ces peurs éventuelles, crainte du morcellement et volonté d'être dans un espace fusionnel. L'enseignant est toujours dans l'urgence, il est dans l'urgence de l'agir et aussi dans l'urgence du parler. Il doit répondre à trois défis. Il doit être à la fois un adulte, un citoyen et un expert disciplinaire. Il est dans les répétitions permanentes. Tous ces éléments nous paraissent être associables à des mécanismes de frustration. C'est pourquoi d'ailleurs un auteur dont le livre est représenté ici, Claudine Blanchard-Laville, qui m'a inspiré là en l'occurrence pour ce petit commentaire, dans Les enseignants entre plaisir et souffrance, explique qu'il faudrait probablement en amont et en aval de la formation des enseignants gérer ces questions de souffrance qui sont tout de même le quotidien des enseignants. J'aborderai à présent le deuxième temps de mon exposé consacré à, le titre est Libido dominandi et école, c'est-à-dire pulsion du pouvoir et école. C'est peut-être la possibilité d'articuler approche psychanalytique, même si nous ne sommes pas nous-mêmes psychanalystes, et école. Alors, première question, l'école invalide-t-elle même partiellement l'ordre des sexes, c'est-à-dire tel que Bourdieu l'explique, la domination masculine. C'est une institution, l'école, qui canalise la vie pulsionnelle, je l'ai suggéré tout à l'heure. Cependant, d'un point de vue psychanalytique, on peut peut-être se poser la question de savoir si l'école ne prend pas la place de l'orifice, qu'il soit digestif, qu'il soit vaginal, mais aussi au moyen de la voix, la bouche, la parole, et de l'entendement, l'oreille, pour promouvoir l'acceptation de la loi. C'est peut-être de ce point de vue-là, dans la lignée des travaux d'Eugène Henriquez, une institution oedipienne, c'est-à-dire une institution mutilante du point de vue des pulsions. J'ai renvoyé tout à l'heure à la négation du corps et de l'intime dans l'école. C'est bien peut-être la caractéristique de cet espace de libido dominandi. L'école, c'est d'abord la parole du père en tant que lieu de la loi, qui détourne de la jouissance et qui construit probablement un espace propre à renvoyer au principe de castration au travers de la symbolisation et du refoulement. Probablement, ce qui s'est joué dans l'histoire de l'école, c'est le fait que les filles soient entrées tardivement dans le système scolaire et ça suggère peut-être qu'elles sont entrées tardivement dans le cercle des hommes. En même temps, du côté des hommes, l'école gère cette nécessité d'exorciser pour chacun des hommes en présence leur part de féminité enfermée dans le masculin. Et ce sont peut-être les deux conditions créatrices de l'ordre social au moyen de l'école. La mixité scolaire serait alors une attitude susceptible de mettre à part la libido dominandi pour faire entrer le corps de la femme dans le corps social masculin.
Puisque, si je puis ajouter un petit mot, la caractéristique de l'école quand même est de nier l'altérité, quelle que soit cette forme d'altérité. on peut en débattre, mais l'altérité culturelle est niée pour une grande part à l'école. Et pour rebondir sur ce que Laurent disait, l'altérité sexuelle est niée à l'école. Le corps enseignant en fournit un bon exemple. Les rapports institués sont des rapports asexués. L'enseignante aguichante ou l'enseignant playboy est très mal vu. La question de l'altérité sexuelle ne peut se poser à l'école.
Oui, il s'agit alors de rejeter les passions comme étant féminines, c'est-à-dire naturelles, donc en contradiction absolue avec l'école comme construction d'un ordre culturel masculin et dominé par les hommes. L'école, c'est donc, de ce point de vue-là, un monde, le monde d'une altérité niée, ou plutôt réaffirmée, si canalisée par le travail scolaire et par l'acceptation du temps de l'obligation des devoirs. Ce qui nous conduit au deuxième temps, qui va donner la parole à nouveau à Béatrice, désir du savoir et savoir du désir.
Effectivement, la gestion du temps pose régulièrement problème dans une conférence, si bien qu'on doit nous aussi être soumis à la gestion difficile du temps. Moi, dans cette deuxième séquence de cette conférence, j'aimerais aborder sous un double regard la question du désir et du pouvoir à l'école, d'abord dans la relation pédagogique elle-même et ensuite concernant ce que j'appelle le malaise de l'institution scolaire. Car Cornelius Castoriadis, qui était un grand monsieur de la psychanalyse et de la sociologie conjuguée, disait que la pédagogie en est à l'an zéro et personne ne sait quand elle se termine. L'objectif de la pédagogie est d'aider le nouveau-né, ce « hopeful and dreadful monster », disait-il, à devenir un être humain. Une telle accession ne peut se faire seule, puisque l'homme a donc besoin d'autrui. Éduquer ne se fait donc jamais sans souffrance, sans reproche, sans regret de ne pas s'y être pris autrement. Le destin d'être humain nous confronte donc tous aux épreuves de la croissance, à la maîtrise de ses pulsions. Aucune éducation, aussi bonne soit-elle, ne peut épargner ces souffrances-là. Et déjà accepter ce point est un point fort pour l'enseignant, tout comme pour le parent. Comme nous le précisions en introduction, éduquer était pour Freud un métier impossible, comme gouverner et psychanalyser, puisque c'est l'absence de réussite au regard des objectifs qui leur est commune à la psychanalyse, à l'art de gouverner et à l'art d'éduquer. Toute psychanalyse est fondamentalement infinie, éduquer participerait donc d'une même impuissance. Mais peut-être que de cette impuissance naît sa force. Ceux qui donc veulent forger un autre à partir d'eux-mêmes, puisque c'est peut-être ça qui est au fond, au cœur même de l'acte d'éduquer, s'aperçoivent nécessairement de leur échec, ou bien si l'élève s'incline docilement, s'il obtempère à leurs vœux, survient toujours un moment où le symptôme apparaît. En d'autres termes, l'obéissance trop rigide a aussi ses revers. Si l'éducation est ce lieu exemplaire, comme l'a montré Laurent, d'exercice du pouvoir, son succès insuffisant atteste que ce pouvoir a toujours des limites. L'homme échappe toujours un peu aux prédictions. Échouer, c'est alors aussi réussir. C'était là le titre d'un éditorial de Psychanalyse Magazine. Et peut-être que du point de vue de l'école, on peut aussi reprendre ce point de vue. Puisque la formation se présente toujours comme une affaire de soi, comme un risque, un désir, l'éducation émane d'une double pulsion, pulsion de vie et pulsion de mort. L'étymologie du mot formation, je ne sais pas si vous le savez, l'étymologie du mot formation renvoie au fromage. Alors l'idée est parfois étonnante. La parenté apparente entre ces deux termes devient intelligible à travers l'idée de moule, à travers l'idée de forme. Il s'agit donc d'une mise en forme des corps et des esprits qu'a longuement décrit Laurent, mais c'est aussi une mise au monde, ce que nous appelons une maïeutique, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme d'accéder à la connaissance de la réalité du monde, mais aussi de son propre désir. La visée formatrice, c'est d'abord la rencontre de sujets et la combinaison de fantasmes, ceux du formateur et ceux des êtres en formation. Puisque l'éducation, le mot éducation vient étymologiquement de éduquerait, expulser hors de soi. Donc l'éducation renvoie à une expulsion hors de soi en tant qu'expérience originelle. elle est aussi l'expérience de l'inachèvement psychophysiologique du bébé qui le voue d'abord à l'univers maternel avant la loi paternelle. Le désir de former, le désir d'être formé, s'inscrit donc dans des prototypes infantiles de relations. Les objets les plus primitifs s'organisent dans une scène où a lieu un jeu de questions-réponses sur l'origine du monde et où s'origine ce fameux désir de savoir. C'est pour ça que j'étais dans l'expectative quand Laurent précisait que le désir ne peut s'exprimer à l'école. La relation éducative donc est consubstantiellement liée à l'idée de faire un autre à partir de soi-même. Cela revient aussi à laisser s'exprimer l'autre qui parle par sa bouche. Fais-moi quelque chose, plaisir, fais-moi quelque chose sur mon corps. C'était la manière dont Dolto décrivait la relation formative. L'objet de la formation, c'est donc bien une confrontation. La confrontation à un savoir, certes, la confrontation aussi à une réalité fantasmée, la confrontation à une relation formative, la consommation... Au lapsus, d'ailleurs. La confrontation...
C'est l'école,
oui. La confrontation, évidemment, à un autre et à autrui, et la confrontation à soi. L'école, comme vous le savez, est le premier véritable lieu de séparation, lieu en tout cas institutionnalisé de séparation avec la mère, lieu où la crainte de morcellement ne peut donc être qu'être exacerbée. L'enfant qui était soumis et protégé par l'attention exclusive de sa mère, privilégié au moins, voire exclusive de sa mère, devient soudain à l'école l'un parmi les autres, l'un parmi le pluriel. Dans cette forme donc définie par l'école, tout est donc en place pour permettre l'expression du narcissisme individuel et pour donner l'illusion d'un moi non divisé. Et pourtant, et c'est là le paradoxe, l'institution, l'organisation insiste sur le côté leurrant et répétitif en plaçant des masques sur les individus. Elle occulte donc ces craintes de morcellement que je citais préalablement et les fantasmes de destruction de soi qui animent chacun. Voilà pourquoi je disais qu'il y a aussi double pulsion, pulsion de vie et pulsion de mort dans la relation formative. Dans cette identité des enseignants en gestation, dans cette identité en perpétuelle recomposition des enseignés, se joue toujours la dialectique du même et de l'autre. Cette organisation veut gommer l'angoisse de morcellement tout en étant elle-même un lieu de morcellement continu. C'est ce que précisait Laurent quand il nous expliquait le morcellement des activités, le morcellement des horaires de classe, le morcellement des disciplines, le morcellement des espaces, sous le joug de la répétition continuelle scolaire annuelle, pratiquement industrielle ou pluriannuelle. Ce morcellement fonctionnel...
Ça sera le deuxième.
Ce morcellement fonctionnel de l'école est pourtant ce qui permet la brisure de l'unité. Et cette situation somme toute dramatique peut néanmoins être vécue. Il doit être vécu à partir de l'idée que l'individu tente de se former une représentation de lui-même, un moi idéal, et d'instaurer cette toute-puissance dans la réalité, c'est-à-dire son idéal du moi. Dans la classe, l'enseignant peut souvent se laisser prendre au jeu de sa toute-puissance de maître. Utopie, évidemment, que la relation de pouvoir entre enseignant et enseigné, puisque si on admet avec Foucault que la relation de pouvoir est effectivement relationnelle, utopie donc que la relation de pouvoir enseigné a tôt fait de ruiner. L'organisation rend donc impossible la toute-puissance effective de l'individu, et c'est là aussi son point fort, si on peut aussi observer l'école par ses côtés positifs, puisqu'on a été assez critique de manière informelle depuis le début de notre exposé. C'est dans cette dynamique d'une relation de pouvoir, d'une relation asymétrique, mais qui est néanmoins une relation entre un individu et un groupe et entre un ensemble d'individus entre eux. C'est dans cette dynamique que donc l'échec scolaire peut être compris. L'échec scolaire est aussi, évidemment, comme chacun sait, symptôme entre désir de savoir, pulsion de vie liée à la prématurité. la prématuration du nourrisson est interdit de savoir. L'enseignant doit donc faire le deuil de cette éducation idéale qu'il ne peut donner, tout comme les parents doivent faire le deuil de cet enfant idéal qu'ils n'auront jamais, et les enfants pouvoir d'une certaine manière exprimer pour une part des souffrances qui peuvent à ce moment-là être entendues, difficilement être entendues, mais qui peuvent, si elles sont mises en dialogue, être entendues, à condition que, et je cherchais la citation, mais tant pis, je ne la retrouve pas, à condition que l'enseignant accepte de prendre à son compte l'enfant qu'il fut lui-même un jour. Cette relation formative, cependant, ne s'opère pas in abstracto. Les jeux du savoir, du pouvoir et du désir s'actualisent dans une institution. Et c'est ce malaise de l'institution scolaire que je veux tenter d'aborder en quelques mots pour conclure cette intervention. Elle ne s'opère pas in abstracto, puisque c'est l'ici et maintenant des situations, des activités et des interactions scolaires qui, s'y réalisant, débordent toujours cette réalité scolaire. Toute institution vise à contrôler, toute institution vise à produire des biens, des services, des idées, et l'école vise à contrôler pour produire quoi ? Bien des citoyens intégrés, des agents socialisés, voire même des agents économiques bien intégrés. Et c'est en ce sens que je précisais que lorsque l'actualité traite de violence, elle oublie souvent que l'école est en elle-même violentogène, productrice de violence. La vie sociale se présente à l'acteur, comme au théoricien des sciences humaines, comme un ensemble de comportements vécus qui se déroulent sur la scène de la réalité, se déroulant donc sur la scène du visible immédiat. Or, derrière une telle description de la vie scolaire dans les organisations, se cachent toujours d'autres phénomènes qu'il s'agit parfois de tenter au moins d'élucider. En d'autres termes, cela signifie que derrière la scène de la vie sociale manifeste, peut-être est-il possible de tenter une autre lecture des organisations, et en l'espèce ici de l'école, mais ça s'applique aussi à l'entreprise. C'est ce que fait Eugène Henriquez dans ses multiples travaux fort intéressants, de saisir cette autre scène de la vie sociale, celle que Freud avait définie pour les individus. Peut-être est-il possible de penser que l'élève essaie de se maintenir en vie dans l'école en tant que sujet désirant et non pas seulement en tant que sujet aliéné. Mais ce faisant, en tentant de demeurer pour une part un sujet désirant, il entre en collusion avec les désirs de l'école. Car pour favoriser l'intégration affective, intellectuelle et sociale des individus dans l'organisation, eh bien celle-ci, cette organisation, l'école, tente de se construire contre plusieurs types d'angoisses. La peur de l'informe, la peur des pulsions, la peur de l'inconnu, la peur des autres, la peur de la parole libre, la peur de la pensée. La peur de l'informe, je vais les reprendre rapidement, ces différents points. La peur de l'informe, ça renvoie à la nécessaire mise en forme, mise en ordre de tout ce qui relève du non prévu, du non prévisible, du spontané, de l'émergence des passions, en organisant la distribution du pouvoir, en organisant l'allocation des responsabilités, la répartition des rôles et des tâches dans l'institution scolaire. Or, seule l'absence de forme se réfère au travail de la pulsion de mort. La crainte des pulsions, deuxième angoisse fondamentale qui anime les relations enseignants, enseignés, administration au sein de l'école, la crainte des pulsions par l'organisation, c'est à la fois celle des pulsions de mort et de destruction, mais aussi celle des pulsions de vie, en tant que ces deux types de pulsions peuvent être facteurs de désordre. Un travail donc nécessaire de l'école est bien de canaliser ces pulsions, comme Laurent l'a rapidement abordé, de canaliser les pulsions vers le travail scolaire, vers les valeurs centrales de cohésion, non seulement du système scolaire, mais de cohésion sociétale d'ensemble. La crainte de l'inconnu, troisième crainte à laquelle l'école est confrontée, la crainte de l'inconnu résonne dans l'agencement du temps scolaire, du cursus, des contenus, des objectifs programmables que nous avons déjà développés, puisque l'inconnu est réduit par ces procédures de contrôle. La crainte des autres, c'est aussi une des angoisses premières de l'école, avec la massification de l'enseignement, cette massification engendrant la cohabitation forcée d'un grand nombre de personnes d'origines et d'intérêts divers. Or, peut-être, pour faire une petite digression, c'est bien la question fondamentale qui se pose à l'école aujourd'hui, qu'elle est confrontée à une demande croissante de pluralisme culturel et de pluralisme cultuel. En d'autres termes, les Juifs veulent pouvoir le samedi ne pas passer d'examen. Certaines jeunes filles musulmanes veulent pouvoir porter le voile à l'école. Certains musulmans font Ramadan pendant le temps scolaire. En d'autres termes, cette demande que la laïcité croyait pouvoir avoir, que la laïcité croyait avoir gommée par ce mode de relation niant l'altérité, qu'elle soit culturelle ou cultuelle, cette question revient comme un boomerang dans l'institution scolaire qui ne sait plus très bien comment y répondre. Les réponses juridiques, celles du Conseil d'État par exemple par rapport au voile, ne réglant rien à la question de fond, puisque les pratiques scolaires n'ont rien à voir avec. J'ai pas tellement le temps de développer cette idée-là, mais n'ont rien à voir avec ce que le Conseil d'État a dit concernant le port du voile à l'école. Donc tout ça pour montrer que l'école s'articule autour de la crainte de l'autre et que cette crainte difficile, cette crainte à laquelle, cette angoisse même à laquelle l'institution scolaire est confrontée face à la gestion des pluralismes culturel, c'est aussi la crainte de l'altérité. Crainte aussi de la parole libre, toute parole libre, non prévue, incongrue, qui rompt avec les modes de pensée traditionnels, ne peut être que rejetée par l'école. Crainte du sens commun, la peur du sens commun articule, organise la plupart des stratégies didactiques et pédagogiques qui postulent toujours la nécessaire rupture avec le sens commun. C'est ce que je disais en tout début de mon introduction. Pour Bachelard, la construction, le savoir se construit contre. Et quand il disait contre, il ne disait pas nécessairement contre soi-même. Il se construit contre, pour Bachelard, contre le sens commun. Pour endiguer ces angoisses, l'école est bien obligée d'édifier des formes de contrôle tendant à soumettre les membres de l'organisation, autant les enseignants que les enseignés, que l'ensemble des acteurs du système scolaire à un idéal commun, idéal de laïcité, idéal d'égalité des chances, de manière à stabiliser et prévoir les comportements au moins partiellement. Or, comme chacun sait, le moindre travail basique de sociologie de l'éducation nous montre bien que le projet méritocratique de notre école de la République, que chacun réussisse selon ses mérites, que l'ascension sociale soit possible à chacun, est bien aujourd'hui obsolète et caduque. Je ne peux pas longuement développer ce point, mais les inégalités sociales face à l'école non seulement ne se réduisent pas, mais augmentent, bien qu'on ait l'impression qu'aujourd'hui l'école s'ouvre largement, que l'université s'ouvre au plus grand nombre. Ça, c'est le côté apparence. Dans les faits, les inégalités, même les inégalités économiques, et même le ministère de l'éducation, qui est le moins supposé donner ce type d'informations, dans un de ses derniers rapports, montre que même les inégalités économiques que l'instauration de bourses pensait avoir pour un temps au moins limité face à l'école, ces inégalités économiques face à l'école s'accroissent. Donc pour endiguer ces angoisses, l'école opère un triple contrôle qu'on a tenté de rapidement aborder là, un contrôle sur les corps instrumentalisé que Laurent a longuement développé, un contrôle sur la pensée, un contrôle sur la psyché. Dans cette organisation scolaire, chacun est pris dans les raies du jeu social qui l'emprisonne et tente de se débattre dans une lutte pour la reconnaissance de soi. Puisque pour qu'il y ait conscience de soi, il faut qu'il y ait désir et d'une certaine manière fondamentalement désir du désir de l'autre. L'individu doit rechercher dans le regard, et la place du regard dans l'école est là essentielle, dans le regard et dans la voix d'autrui, des marques de reconnaissance prodiguées, des marques de ses caractéristiques en tant que personnalité. Mais l'organisation rend impossible la toute-puissance effective de l'individu, je l'ai déjà précisé, même si dans la classe, parfois l'enseignant se laisse prendre au jeu de cette toute-puissance de maître que la relation de pouvoir tente rituellement d'organiser. Le pouvoir se laisse toujours prendre à sa propre image. Il y a donc un culte du même dans la relation faussement duelle duel entre enseignants et enseignés qui impose aux protagonistes même de l'école un déni des relations de pouvoir, ce en quoi il nous semblait qu'il était important d'aborder dans notre conférence à grands traits, puisque nous avons simplement posé quelques jalons, le dialogue possible entre les sciences sociales et la psychanalyse, dialogue qui n'est pas si commun, bien qu'on puisse le penser. En tout cas, dans les lieux du savoir, que sont l'université ou la recherche, le dialogue n'a lieu qu'à la marge. J'ai vu que sur le site des presses universitaires de France, on avait la chance d'avoir des travaux de Paul-Laurent Hassoun, qui est un des promoteurs de cette relation fécondante entre les sciences sociales et la psychanalyse, ou encore Raphaël Drahi, qui a donné une interview dans un des derniers Psychanalyse Magazine pour montrer comment aussi la science politique pouvait être nourrie par les apports de la psychanalyse et comment la psychanalyse elle-même pouvait être nourrie des apports de la science politique, puisque les relations de pouvoir au sein même des écoles psychanalytiques disent quelque chose de ce qu'est ce savoir. Je voulais employer le mot discipline, je préfère dire savoir. C'est à ce dialogue que Laurent Sadoun, en conclusion, va tenter de donner sa pierre.
Alors, une petite pierre et une pierre rapide cette fois-ci. D'abord, vous rappelez que Freud aurait dit à Marie Bonaparte, de quelque façon qu'on s'y prenne, en éducation, on s'y prend mal. L'éducation navigue entre proximité et distance, entre passion, amour et violence. Évidemment, nous avons, chacun d'entre nous, où nous sommes, à méditer ce propos. Et peut-être pour aller plus loin, pas seulement par rapport à cette proposition de Freud, mais aussi par rapport à notre ouvrage et à nos ouvrages et à ce qu'on a pu essayer de vous expliquer rapidement, eh bien, nous vous invitons à dialoguer. Et dans cet esprit, nous avons un moyen, c'est une revue, la première web revue de sciences politiques. Je vous en donne le nom, www.la-politique.com. Vous trouverez la revue Dialogue au pluriel politique, revue plurielle de sciences politiques, ouverte évidemment à la psychanalyse et aux psychanalystes. Et vous avez notamment un espace forum sur lequel vous pourrez poser des questions et même, pourquoi pas, aussi soumettre des articles au comité scientifique. Voilà. Et puis éventuellement répondre à des questions, peut-être en nous retrouvant du côté de notre stand. Merci.
Je vous remercie beaucoup. C'était extrêmement complet, extrêmement intéressant. Et peut-être très rapidement, une question ? Parfait. Si vous voulez rencontrer Madame Mabillon et Monsieur Sadoun, ils sont sur leur stand où ils pourront dédicacer leurs ouvrages.